Content d'être avec vous, chers amis, pour continuer à étudier la lettre aux Philippiens ensemble. On est bientôt à la fin, mais pas encore à la fin. Donc on a encore deux prédications, celle-ci et la semaine prochaine, sur ce chapitre 4 de Philippiens, pour découvrir les merveilles de ce que Dieu veut nous enseigner à nous aujourd'hui en tant que chrétiens, mais aussi en tant qu'Église. Et je vous invite, avant d'aller plus loin dans la méditation de la parole de Dieu, à prier. On a besoin de l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Alors prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions pour ces versets qui font partie de ta parole que tu nous as laissée, par lesquels tu as voulu nous parler encore aujourd'hui. On te prie, notre Dieu, que dans notre étude, méditation de ces versets, tu puisses être à l'œuvre par ton esprit, non seulement en moi pour m'aider à m'exprimer avec clarté, avec humilité, avec vérité, mais aussi en chacun de nous, pour que l'on puisse voir comment vivre d'une manière qui t'honore, qui te glorifie, en harmonie les uns avec les autres, en suivant Jésus, d'une manière qui est en conséquence de la grâce que l'on a reçue en Jésus. Sois avec nous, on t'en prie, pour ta gloire. Amen. Le 1er juillet 1523, c'était il y a 500 ans exactement, hier, tout pile 500 ans, deux personnes sont mises à mort sur la grande place de Bruxelles. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais ce sont les deux premiers martyrs de la réforme protestante en Europe. Les deux premiers martyrs, ceux qui sont morts pour leur foi, pour leur attachement aux vérités de la réforme, ont été mis à mort sur la grande place que l'on connaît à Bruxelles. La réforme, donc, qui a eu lieu au XVIe siècle, vous avez peut-être entendu vaguement parler, c'est une période passionnante de l'histoire, c'est une véritable redécouverte de l'Évangile. Notamment Martin Luther, mais aussi d'autres, au même moment que lui, au début du XVIe siècle, alors qu'ils étudient la Bible, ils voient que ce que l'Église catholique enseigne, ce que l'Église officielle enseigne, est totalement à l'opposé de ce que la Bible enseigne, notamment sur les grands sujets de comment être en bonne relation avec Dieu, comment être juste devant Dieu, comment être sauvé par Dieu. Et alors qu'ils étudient de plus en plus la Bible, ils découvrent dans la Bible la merveille de l'Évangile, du salut par la grâce de Dieu seul, pas par le bien que l'on fait, mais par le cadeau que Dieu nous donne en la personne de Jésus, par la mort de Jésus à la croix. Et cette découverte de ces vérités se répand comme un feu de poudre en Europe, et y compris ici en Belgique, qui sont à l'époque les Pays-Bas, et notamment dans la ville d'Anvers. Les vérités de la réforme prennent racine très tôt dans cette ville, et il y a un couvent en particulier rempli de moines qui s'attachent très tôt à ces vérités-là, les vérités du salut par la grâce de Dieu seul, qui proclament ces vérités. L'Église officielle, à l'époque, veut combattre ces vérités, veut faire taire ces vérités-là. Et donc, en 1522, tous les moines de ce couvent à Anvers, un couvent augustinien, sont arrêtés et sont mis en prison au château de Vilvorde. Le mois suivant, ils seront relâchés parce qu'ils ont tous abjuré, tous renoncé à leur foi, sauf trois. Trois personnes, Lambert Thoren, Henri Vos et Jean Van Essen, trois personnes qui ont refusé de renier ces vérités-là, qui ont continué à proclamer ces vérités-là. Et donc, le jour de leur exécution est fixé au 1er juillet 1523. Ils sont amenés sur la grande place de Bruxelles. L'un des trois, Lambert Thoren, va hésiter un petit peu, va demander plus de temps pour réfléchir, pour étudier la question, donc il sera mis de côté. Mais Henri et Jean, ces deux personnes, sont mises à mort, sont brûlées vifs le 1er juillet 1523 sur la grande place de Bruxelles et feront partie, non pas des premiers martyrs chrétiens, les chrétiens sont mis à mort depuis le début de l'histoire chrétienne, mais les premiers martyrs de la réforme protestante. Ils meurent en restant attachés à ces vérités, en chantant même des cantiques, en récitant le symbole des apôtres, en ne reniant pas le salut par la grâce qu'ils ont trouvé en Jésus. C'était il y a 500 ans, jour pour jour, parmi nous, ici, à Bruxelles. 500 ans plus tard, le même combat continue. Nous proclamons encore aujourd'hui, on l'a fait ce matin par nos chants, les mêmes vérités, le salut par la grâce de Dieu seulement, par le salut qui se trouve en Christ seulement, l'autorité de la Bible sur tout ce que les êtres humains pourraient dire. 500 ans plus tard, l'Église a la même mission, lutter pour l'Évangile, le vrai Évangile, le seul Évangile. Et c'est ça le fardeau qui pèse sur le cœur de Paul alors qu'il l'écrit aux Philippiens. Alors qu'il écrit cette lettre à ces chrétiens de la ville de Philippe, il veut que ces chrétiens continuent à lutter pour l'Évangile, pour le vrai Évangile, pour le seul Évangile. Ils veulent qu'ils ne changent pas ces vérités-là et qu'ils continuent à les proclamer autour d'eux. il veut que les Philippiens tiennent ferme dans cette mission. Et ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine passée. On avait vu le verset 1 du chapitre 4, je vais vous le relire, où Paul disait « C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Paul voulait que les Philippiens continuent leur combat pour l'Évangile, à lutter pour l'Évangile, sans se laisser distraire par rien, sans se laisser détourner de rien. Oui, il y a des défis, il y a des obstacles, il y a des gens qui s'opposent à l'Évangile, mais les Philippiens doivent continuer à avancer vers le même but. Dans notre passage aujourd'hui, dans Philippiens 4, les versets 2 à 9, Paul aborde plusieurs choses qui pourraient empêcher les Philippiens de tenir ferme, qui pourraient nous empêcher de tenir ferme. Il ne s'agit pas ici, dans ces versets, de vérité doctrinale, contrairement à la réforme protestante, contrairement à Henri et Jean qui sont mis à mort sur la Grande Place. Non, il s'agit plutôt de choses ici qui pourraient, de manière surprenante, menacer l'harmonie dans l'Église, menacer la paix et l'unité dans l'Église. L'Église est parfois un peu comme un bateau qui doit avancer dans une certaine direction, puis il y a tout un équipage à bord et chacun a sa tâche. Et pour que le bateau continue à avancer vers le cap, vers là où il veut aller, ben il faut que chacun fasse sa tâche, il faut que tout le monde continue à œuvrer les uns avec les autres, il faut qu'on reste unis, qu'il y ait une harmonie qui règne pour que le bateau continue à avancer, sinon le bateau va ralentir ou va se détourner de sa mission. C'est un peu la même chose pour l'Église. Et donc Paul partage ici des clés pour que l'harmonie continue à régner dans l'Église, pour que les Philippiens continuent à avancer, comme un équipage harmonieux, on pourrait dire, dans la bonne direction. Et donc sur le plan qui vous a été donné, vous allez voir 5 clés, 5 choses que Paul met en avant dans ces versets pour vivre l'harmonie dans l'Église. Premièrement donc, laissez vos désaccords, il y a plus important. Laissez vos désaccords, il y a plus important. On apprend dans ces versets qu'il y a un désaccord entre 2 sœurs de l'Église, Évodie et Syntyche. Ce désaccord était probablement assez important pour que Paul les mentionne publiquement dans sa lettre et que le reste de l'Église soit au courant. Et Paul va les exhorter à être unis, à mettre leur désaccord de côté. Regardez le verset 2, il écrit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. » Paul ne demande pas ici de mettre de côté des vérités importantes pour conserver l'unité, comme si tout désaccord était mauvais. Non, au chapitre juste avant, qu'on a vu la semaine dernière, au chapitre 3 et même la semaine d'avant, Paul a dénoncé certaines personnes de qui il faut se séparer. Des gens qui mettent leur confiance en eux-mêmes plutôt qu'en Christ. Des gens, comme on l'a lu dans la présidence, Adrien Luce et Versailles, qui s'opposent au message de la croix. Donc certains désaccords sont nécessaires lorsque des vérités importantes de la foi sont mises en jeu. L'idée ici, ce n'est pas de chercher l'unité à tout prix, ou en tout cas pas au prix de la vérité. Paul ne demande pas non plus qu'on soit d'accord sur tous les sujets et qu'il n'y ait jamais de différence au sein de l'Église. Non, là encore, on l'a vu la semaine dernière, je relis un des versets dans le chapitre 3, le verset 15. Paul écrit « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. » Il arrive que sur certains sujets, on ait une pensée différente. Mais on doit continuer à avancer. Ça ne doit pas nous empêcher de continuer à avancer. Et c'est ça le souci de Paul. Continuer à avancer. Il veut que Évodie et Syntyche et que chacun de nous, on ait, au verset 2, une même pensée dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire avoir la même opinion sur tous les sujets, mais ça veut dire avancer dans la même direction. Aller au même endroit, ne pas laisser nos différences freiner l'œuvre de l'Évangile et être un obstacle pour la mission de l'Église. On ne sait pas quel était le désaccord que Évodie et Syntyche avaient entre elles, mais à la lumière de ce que ces versets nous disent, on peut savoir qu'il ne s'agissait pas de quelque chose de fondamental, comme ça l'était dans le chapitre 3 par exemple. Mais si Paul les mentionne individuellement, par leur nom, au milieu de cette lettre qui s'adresse à toute l'Église, imaginez, la lettre est lue à toute l'Église le dimanche matin, et puis il les mentionne individuellement par leur nom, je ne vais pas faire ça ce matin, ne vous inquiétez pas. Si Paul fait ça, c'est probablement que leur désaccord non seulement était connu par le reste de l'Église, mais aussi avait un impact sur le reste de l'Église. Ce désaccord risquait de troubler l'harmonie au sein de l'Église et de détourner l'Église de sa vraie mission. Imaginez des soldats sur le champ de bataille qui se disputent pour savoir qui devrait avoir la dernière barre de céréales. Il n'y a pas de gâteau sur le champ de bataille, mais j'imagine qu'ils ont des barres de céréales et qui se disputent pour savoir cela. Ben, ça serait stupide, n'est-ce pas ? Ça n'aurait aucun sens. On dirait, mais vous vous détournez du plus important, de votre vraie mission. C'est un peu la même chose pour les désaccords dans l'Église qui ne sont pas importants. Les conflits, les disputes entre chrétiens, ça a un impact sur le reste de l'Église. Ça ralentit l'Église. Ça détourne l'Église de sa vraie mission. On n'est peut-être pas toujours conscient de ça, mais lorsqu'on se laisse entraîner dans une dispute avec un frère ou une sœur dans l'Église, c'est comme si on ralentissait l'Église tout entière. Et dans cette lettre aux Philippiens, Paul nous rappelle ce qui est le plus important, ce qui est essentiel pour une Église, ce qui est la mission de l'Église, pour laquelle on doit écarter toute distraction, c'est de lutter ensemble pour l'Évangile. Pour rafraîchir notre mémoire, on avait vu ça dans le chapitre 1, le verset 27, c'est un verset qui résume bien, si vous voulez, un verset qui résume tout ce qu'on a vu dans la lettre aux Philippiens, vous pouvez noter ce verset quelque part, Philippiens 1, verset 27, où Paul disait à ses chrétiens, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Voilà ce que Paul voulait pour les Philippiens, qui continuent à lutter pour l'Évangile et qui continuent à le faire ensemble, unis, côte à côte, en train d'aller dans la même direction, en train d'avoir le même objectif. Pas forcément en ayant la même opinion sur tous les sujets, mais en allant dans la même direction. Paul voulait qu'ils luttent pour l'Évangile, c'est-à-dire qu'ils mettent l'Évangile à la première place de leur vie, en vivant en conséquence dans tous les domaines de leur vie, par rapport à l'Évangile, de chercher à faire progresser l'Évangile, de chercher à encourager les autres à grandir dans leur compréhension de l'Évangile, de chercher à défendre les vérités de l'Évangile quand elles sont remises en question. Voilà ce que Paul voulait pour les Philippiens. Voilà ce qui est le plus important pour une Église. Voilà ce qui est essentiel. Et c'est ce que Évodie et Saint-Tiche ont fait dans le passé. Il nous est dit ça au verset 3 de notre passage, donc de Philippiens 4. Si vous regardez, Paul dit « Toi aussi, fidèle collègue, on ne sait pas vraiment à qui il s'adresse ici, oui, je te demande de les aider, donc Évodie et Saint-Tiche, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. » Donc Évodie et Saint-Tiche ont fait ça dans le passé. Mais maintenant, elles ont laissé une dispute prendre le devant et les détourner de ce qui est le plus important. Et donc Paul veut les ramener à la raison. Et pour faire cela, il ne va pas détailler le problème. Il ne va pas chercher à dire bah « voilà qui a tort, voilà qui a raison, voilà comment vous devez vous réconcilier l'une avec l'autre ». Non, Paul va plutôt répéter à chacune « j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur ». C'est tout ce qu'il dit dans un sens. Un peu comme s'il les regardait droit dans les yeux pour dire « Évodie, Saint-Tiche, votre désaccord, c'est une broutille, c'est rien ». L'Évangile est bien plus important que ça. Revenez à la raison. Mettez vos désaccords de côté. Votre dispute, votre petite dispute, pâlit à la lumière de l'Évangile. Les frustrations dans le domaine des relations humaines sont inévitables dans cette vie. Et ces frustrations sont inévitables dans l'Église. On côtoie des gens qui pensent différemment que nous, dans pas mal de domaines. On côtoie des gens qui sont différents de nous. On se marche sur les pieds, mais on doit avancer ensemble. N'oublions pas ce qui nous unit. N'oublions pas ce qu'on veut accomplir ensemble, tous ensemble, œuvrer pour les progrès de l'Évangile et pour la croissance de chacun dans cet Évangile. C'est ça qu'on veut faire avant tout. Ne laissons rien nous distraire de notre mission. Soyons prêts à enterrer certains désaccords. Soyons prêts à passer l'éponge, à pardonner. À la fin du verset 3, Paul rappelle que nos noms sont inscrits, il dit, dans le livre de vie. C'est l'image d'un livre que Dieu garde, avec le nom de ceux qui ont été sauvés par sa grâce, de ceux qui ont été rachetés, de ceux qui vont passer l'éternité avec lui. C'est ça que ça veut dire d'être chrétien, c'est une belle image, avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Et dans ce livre, il n'y a pas de division, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de niveau. On est tous au même niveau, tous sauvés par la même grâce. Et donc ces versets sont un appel à mettre les choses en perspective lorsqu'on est face à un conflit, à un désaccord, à prendre du recul, à mettre ce conflit sur l'échelle de la vie chrétienne, sur l'échelle de la mission de l'Église, sur l'échelle de l'éternité, et à se dire, ok, c'est pas si grave que ça, il y a plus important. Laissons nos désaccords de côté, il y a plus important. Dans la suite, Paul continue à donner différents encouragements qui visent l'harmonie dans l'Église, et maintenant il nous appelle, au verset 4, à nous réjouir. Soyez joyeux en tout temps. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ce n'est pas la première fois que Paul parle de la joie dans cette lettre. En fait, le thème de la joie traverse toute la lettre aux Philippiens. C'est vraiment surprenant. Paul est dans la joie, il veut que les Philippiens soient dans la joie. Par exemple, je mentionne juste un verset, il y en aurait beaucoup d'autres. Vous pouvez relire Philippiens et noter peut-être toutes les fois où il est question de la joie. 2:17, chapitre 2, verset 17. Paul dit, « Même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, » là il fait référence à sa mort, « Je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Paul est dans la joie. Et Paul veut inviter les Philippiens à se réjouir. Et c'est vraiment surprenant de réaliser ça parce que quand Paul écrit cette lettre aux Philippiens, il n'est pas dans un palace 5 étoiles en train de vivre sa meilleure vie, mais il est en prison. Il est peut-être face à la mort. Il ne sait pas ce qu'il en sera pour lui. Il fait face à des difficultés. Il y a des adversaires qui veulent prêcher Christ par jalousie pour augmenter les souffrances de sa détention, il nous est dit. Il se soucie des Philippiens, il est très proche d'eux, et il sait que les Philippiens font face à des défis, à des problèmes. Il parle même en pleurant, il dit au chapitre 3, verset 18, d'ennemis de la croix, de gens qui renient le fondement même de ce qu'est la foi chrétienne. Et on verra la semaine prochaine qu'il fait face à une détresse financière. Donc, Paul n'est pas dans une situation facile, et pourtant il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible de n'avoir aucune raison d'être joyeux d'un point de vue humain, d'avoir même toutes les raisons d'être déprimé, d'être découragé, et pourtant d'être toujours joyeux, toujours dans la joie? C'est parce que la joie de Paul est placée au bon endroit. Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dans le Seigneur Jésus. » Sa joie n'est pas placée dans des circonstances qui changent, mais dans le Seigneur qui ne change pas. Et le problème, c'est que naturellement, on place trop souvent notre joie dans des circonstances, dans des choses passagères. Et donc, quand ces choses nous sont ôtées, ou quand ces choses ne se passent pas comme prévu, ben, on ne peut pas être joyeux, on perd la joie. Alors, ce n'est pas mauvais, bien sûr, de trouver notre joie dans les choses de ce monde, dans les amitiés, la famille, un loisir, la nature. C'est légitime et ces choses sont une source de joie. Le livre de l'Ecclésiaste, par exemple, nous montre comment les plaisirs de la vie sont une bonne chose créée par Dieu, dont on peut profiter. Mais ce n'est pas là qu'il faut trouver la joie profonde, le fondement de notre joie. Parce que cette joie, elle est éphémère. Cette joie, elle est fragile. Il ne faut pas non plus trouver notre joie en nous-mêmes, dans notre productivité, dans ce qu'on pourrait accomplir, ou alors dans ce que les autres pensent de nous, dans la bonne opinion qu'on pourrait avoir aux yeux des autres. Non, si c'est le cas, la joie sera un but inatteignable. On aura beau la poursuivre de toutes nos forces, on ne pourra jamais y arriver. En fait, si notre vie est centrée sur nous, on ne sera jamais vraiment joyeux. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura une maison plus grande que la nôtre, un smartphone plus performant que le nôtre, une vie plus trépidante que la nôtre. On ne pourra jamais être vraiment joyeux. Notre joie profonde doit se trouver dans le Seigneur. Parce que c'est là qu'on peut trouver des raisons d'être joyeux, toujours, peu importe nos circonstances. Et là encore, c'est l'exemple de Paul dans cette lettre. Il est joyeux, même s'il n'a rien de positif d'un point de vue humain, parce qu'il a les bonnes priorités. Comme on l'a vu, Christ est sa vie, sa raison de vivre, la chose la plus importante pour lui. L'évangile est à la première place de sa vie. Et donc, il peut se réjouir, comme on le voit dans le chapitre 1, si l'évangile progresse, même si ça lui coûte, même si ça va impliquer des souffrances pour lui. Mais encore plus que ça, il a toujours des raisons d'être joyeux, parce que l'évangile est toujours vrai. Et parce que sa joie est placée dans le Seigneur Jésus, dans l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pensez simplement à ce qu'on a vu dans le début du chapitre 3. Paul a mis à la poubelle son CV religieux et il a gagné Jésus, sa justice, sa perfection, le pardon des péchés devant Dieu, l'assurance d'être sauvé pour toujours. Ces vérités sont des raisons d'être joyeux pour toujours, parce que ces vérités sont vraies et elles seront toujours vraies, peu importe les circonstances. C'est seulement si on a comme source de joie ces vérités qu'on pourra être toujours joyeux. Et si on est chrétien, on est au bénéfice de ces réalités, et donc on devrait être joyeux. C'est un commandement qui est donné ici. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il y a parfois cette idée que être quelqu'un de pieux, quelqu'un de religieux, c'est être vraiment toujours sérieux, avoir un peu une tête d'enterrement tout le temps, et qu'on devrait être comme ça partout où on est, parce que c'est ça qui est vraiment la piété, même à l'église. Non, on doit réaliser que la joie fait partie de la vie chrétienne. Les chrétiens devraient être les plus joyeux de tous les hommes. C'est nous qui avons la vraie joie. Le monde n'a qu'une fausse joie, une contrefaçon médiocre. Les chrétiens sont les seuls qui peuvent être joyeux, toujours. Alors bien sûr, ça se manifeste de manière différente pour chacun. On est tous différents. Certains sont plus expressifs que d'autres. Je ne vais pas décrire, vous savez à quoi ça ressemble. Et on est tous différents, et certains sont moins expressifs que d'autres. Et là encore, vous savez à quoi ça ressemble. Et c'est une bonne chose. Et on a aussi tous des situations de vie différentes. On passe par des choses différentes. Et donc, parfois, pour certains, pour chacun de nous, à certains moments de notre vie, cette joie s'exprime au travers des larmes, au travers de la souffrance, au travers des défis de la vie. Mais tous, on peut être joyeux au fond de nous, dans le Seigneur. On a des raisons pour cela. Trop souvent, on n'est pas joyeux parce qu'on est des chrétiens un peu blasés. L'évangile est devenu une habitude pour nous. C'est plus aussi frais, plus aussi nouveau, plus aussi source de joie que ça l'était avant. On ne réalise plus la bonne nouvelle que c'est. Comme le dit un commentateur, on vit sous un nuage de déception alors qu'on pourrait marcher sous le soleil de la joie. Le soleil de la joie, c'est le Seigneur Jésus. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et alors, quand c'est le cas, qu'on est sous un nuage de déception, qu'est-ce qu'on doit faire ? Prendre du recul. Considérer le salut dont on a été l'objet. La grâce de Dieu. L'amour de Jésus qui se donne sur la croix. L'assurance de l'éternité. La paix que l'on a avec Dieu. Et si ça ne provoque pas de la joie en nous, on peut penser au fait que ces choses sont vraies, même si on ne le ressent pas. Peu importe que l'on soit joyeux ou pas, ça ne change rien au fait que ces choses sont vraies, sont réelles, qu'on passera l'éternité avec Dieu, qu'on est sauvé par la grâce de Dieu, qu'on est pardonné de tous nos péchés. C'est vrai et ça ne dépend pas de nous. C'est là qu'on peut baser notre joie. Une autre chose qu'on peut faire, c'est simplement de chanter. Je mentionne ça juste rapidement, mais le chant, notamment dans Jacques 5, est une expression de la joie. Il s'agit bien sûr de chanter des cantiques dont les paroles sont basées sur la Bible, basées sur les vérités de l'Évangile, mais le fait de chanter, même quand on ne ressent pas de la joie, ça nous aide à recadrer nos émotions. Et le fait de chanter en Église, c'est une bénédiction pour cela. De regarder autour de nous et de voir les autres chanter aussi, croire les mêmes choses, proclamer les mêmes choses, même malgré ce qu'ils vivent. Ça nous aide à nous dire « Ah, mais il y a quelque chose de plus dans ces vérités que j'ai peut-être oublié. » Soyez joyeux en tout temps. Troisième appel pour vivre l'harmonie dans l'Église, soyez bienveillants envers tous. Regardez avec moi le verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, Paul dit. Alors, je ne sais pas ce que vous avez en tête quand vous entendez parler de la douceur, de quelqu'un qui est doux. Peut-être qu'on pense à quelqu'un qui est un peu faible, se laisserait marcher sur les pieds sans rien oser dire. C'est pas de ça dont il s'agit ici. C'est pas ça la douceur dont il est parlé ici. Et c'est pas non plus juste l'idée d'être calme, d'être paisible. Quand il est parlé de douceur ici dans ce verset, c'est plutôt synonyme de bienveillance. D'autres versions de la Bible en français traduisent cela par aimabilité, le fait d'être aimable, ou par le fait d'avoir une attitude conciliante. C'est l'idée de toujours chercher le bien des autres, de toujours chercher la paix. C'est même une attitude d'effacement, parce qu'on est tellement focalisé sur le bien des autres. C'est le contraire de quelqu'un de querelleur, de violent, de quelqu'un qui lutte toujours pour être au centre de l'attention. Un exemple de ça qu'on a vu plus tôt dans Philippiens 2, c'est ce que Paul demandait au Philippiens 2, au verset 3 et 4. Il disait ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ça la douceur chrétienne. Et Paul veut qu'on soit connu pour cela. Paul veut que notre oubli de nous-mêmes et notre souci des autres, notre bienveillance envers les autres, ça fasse tellement partie de nous-mêmes que ça devienne évident pour ceux qui sont autour de nous. C'est indispensable pour avoir l'harmonie dans l'Église, d'avoir des chrétiens qui ont une telle attitude. Et on peut se demander, est-ce que c'est cette douceur qui me caractérise? Est-ce que c'est ça qui caractérise mes paroles aux autres membres de l'Église, aux anciens, nos messages, nos WhatsApp, nos réponses par email, nos paroles quand on parle de quelqu'un à une autre personne? Est-ce qu'on est caractérisé par une attitude bienveillante, conciliante, un sentiment d'effacement pour le bien des autres? Et ce verset mentionne tous les hommes. Ce qui est visé ici au verset 5, donc il est dit tous les hommes, c'est une attitude pas seulement pour les gens qui sont dans l'Église, mais aussi pour ceux qui sont en dehors de l'Église, envers tous, envers ceux qui croient et envers ceux qui ne croient pas. Et c'est là où ce petit verset a du poids dans la situation des Philippiens. Si on se rappelle, ils font face à de l'opposition pour leur foi, des gens qui s'opposent à la foi chrétienne. Ils doivent continuer, oui, à lutter pour l'Évangile, à croire et enseigner ce que la Bible enseigne, mais ils doivent le faire avec douceur. Leur douceur doit être connue de tous les hommes. Et malheureusement, trop souvent, quand les chrétiens se sentent attaqués dans leur foi, la réaction un peu naturelle, c'est de sortir les griffes, d'attaquer en retour. Mais ce n'est pas ce qu'on est appelé à faire. On est appelé à la douceur, à la bienveillance. Bien sûr, ça ne veut certainement pas dire de mettre nos convictions de côté, mais ça veut dire d'être bienveillant, même envers ceux qu'on dénonce. Ça veut dire de dire la vérité, oui, mais en prenant le temps d'exprimer cette vérité avec clarté et en comprenant bien la situation des personnes à qui on s'adresse. C'est triste de voir que les chrétiens sont trop souvent connus pour leur attitude ou leurs mots agressifs pour les personnes qui ont une éthique sexuelle différente d'eux, par exemple, ou leurs opinions politiques ou sur les réseaux sociaux. C'est triste que ça soit le cas. Oui, on veut croire et enseigner ce que la Bible enseigne. Oui, on ne veut pas changer nos convictions. Mais ça ne justifie jamais un manque d'amour, un manque de compassion, un manque de douceur. Soyons connus pour notre douceur, pour notre bienveillance envers tous. Quatrième clé pour viser l'harmonie dans l'Église, transformez votre anxiété en prière. Transformez votre anxiété en prière. Regardez ce qui nous est demandé au verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Voilà, bon dimanche, à la semaine prochaine. C'est facile, non? Si on lit juste le début de ce verset, on peut se dire, mais attends, c'est un commandement qui nous est donné, on ne doit pas s'inquiéter, et s'inquiéter de rien, vraiment absolument rien. Facile à dire. Et alors, qu'est-ce que je dois faire de tous mes problèmes? De tous mes soucis? De toutes ces raisons que j'ai de m'inquiéter? Mais le verset ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste négatif. C'est pas juste, il ne faut pas être anxieux, arrêter. Non, il y a une solution qui est donnée. Regardez le remède dans la suite du verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. au lieu d'être anxieux, ou plutôt quand l'anxiété vient, il faut faire connaître nos demandes, nos besoins à Dieu. Et ça aussi, c'est un commandement qui est donné ici. Faites connaître vos demandes à Dieu. En fait, il faut transformer notre anxiété en prière. C'est normal de réagir, même de manière émotionnelle, face aux épreuves de la vie. Il y a des choses qui nous inquiètent. Il y a des soucis. Il y a des raisons d'être anxieux. La Bible ne nous demande pas ici d'être insensible, stoïque, de faire taire toute chose qu'on ressentirait. Mais ce que ce passage nous montre, c'est qu'il ne faut pas réagir aux soucis de la vie avec l'anxiété, mais avec la prière. Il faut transformer notre anxiété en prière. On est appelé à développer une habitude de prière qui sera le meilleur remède à l'anxiété, à l'inquiétude. On vient à Dieu avec notre anxiété, avec ce qui cause cette inquiétude, avec nos prières, nos supplications, nos demandes. On ne garde pas ça pour nous. On ne pense pas que Dieu s'en fiche, que c'est trop petit pour que Dieu s'y intéresse. Non, Dieu veut que l'on vive dans la paix. Dieu veut que l'on vive en lui faisant confiance. Donc tout sujet d'inquiétude est digne d'être placé devant Dieu. Il se plaît à nous voir venir à lui pour lui présenter ce qui nous pèse. Parce que c'est une preuve de confiance en lui. Et l'anxiété, au contraire, est plutôt une preuve d'un manque de confiance en sa souveraineté, en sa bonté. La prière coupe ce manque de confiance à la racine, on pourrait dire, en plaçant dans les mains de Dieu le fardeau de l'univers. C'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui gère nos vies. C'est lui qui prévoit même les imprévus, même les difficultés, et qui conduit nos vies pour notre bien dans la foi et pour sa gloire. Une conversation difficile qui arrive, un souci financier, des faiblesses physiques, un conflit relationnel, les problèmes dans le monde, dans la société, la crainte face à l'avenir, face à ce que l'avenir peut apporter. Il y a une foule de raisons d'être anxieux. Et on pourrait tous ajouter à la liste. Mais il ne faut pas continuer sans traiter cette anxiété, sans prendre le remède de la prière, sans transformer cette anxiété en prière. Sur le moment même, simplement parler à Dieu et lui faire connaître ce qui nous pèse, lui faire part de nos besoins, le noter quelque part pour prier pour ça régulièrement, en faire part à quelqu'un de l'Église qui pourra prier avec nous si on ne se sent pas à l'aise de prier nous-mêmes tout seul. C'est pas que tout ça garantit une réponse positive ou une intervention immédiate de Dieu, mais c'est un moyen de dire « Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est pas moi qui m'occupe de ça. C'est pas moi qui contrôle. Ton plan s'accomplira certainement et ton plan est le meilleur pour moi. Aide-moi à croire ces choses-là. » Ça décharge le fardeau de nos cœurs et ça remet entre les mains de Dieu ce qui lui revient. Le contrôle de l'univers, le contrôle de nos vies. Trop souvent, on porte des choses qu'on ne devrait pas porter. C'est un peu comme, imaginez, je sais que ce ne serait pas quelque chose qui arriverait, mais imaginez que quelqu'un soit dans un train et il est encore debout en train d'essayer de porter ses valises par lui-même. Il est vraiment essoufflé, il est en train de porter ses valises alors que le train est parti. Il est très fatigué, mais il continue à les porter. Mais ça n'aurait pas de sens. On aurait envie de lui dire, mais mon ami, lâche tes valises. Ça va aller très bien. Ce n'est pas toi qui dois porter ça. Le train est déjà en route, le train est déjà en marche. Assieds-toi et fais confiance. Et parfois, on a besoin d'entendre la même chose. Transformer notre anxiété en prière. Lâcher les valises. Poser les choses devant le trône de Dieu et le laisser s'en occuper. Et non seulement on fait confiance à Dieu par nos prières et nos supplications, mais il est aussi mentionné des actions de grâce. Ici, c'est l'idée de reconnaissance, de dire merci à Dieu. C'est aussi un remède à l'anxiété. On ne veut pas se focaliser uniquement sur nos besoins, sur nos soucis, sur ce qui ne va pas, mais aussi fixer les yeux sur les nombreux sujets de reconnaissance qu'on a. Comme le dit le cantique, on veut compter les bienfaits de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a mentionné en rapport avec la joie. Les raisons qu'on a pour être joyeux sont des sujets de reconnaissance qu'on a toujours. On peut toujours dire merci à Dieu pour ces choses-là. Et la conséquence de cela, de faire cela, c'est la fin du verset 7, ou le verset 7 plutôt. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Voilà le contraire de l'anxiété, n'est-ce pas? La paix de Dieu qui garde nos cœurs, nos pensées en Christ. Transformez votre anxiété en prière. Et cinquièmement, pour terminer, pour vivre l'harmonie dans l'Église, poursuivez ce qui est moralement bon. Dans ces deux versets à la fin, qui sont liés les uns aux autres, Paul veut encourager les Philippiens à poursuivre tout ce qui est moralement bon, non seulement dans leurs pensées, mais aussi les modèles de vie qu'ils ont devant eux. Regardez au verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Paul décrit ici une liste de qualités, de choses qui sont bonnes, de critères, on pourrait dire, et il nous demande « pensez à ces choses, nourrissez-vous de ces choses, focalisez-vous sur ces choses. » On se demande mais à quoi ces choses vont ressembler, à quoi ça ressemble dans la vie de tous les jours. C'est là qu'il continue avec le verset 9. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Voilà à quoi ça ressemble. Il faut poursuivre ce qui est moralement bon, et Paul, avec beaucoup d'autres, sont un exemple de à quoi ça ressemble, une vie qui poursuit sans cesse ce qui est moralement bon. C'est ça la clé pour que le Dieu de paix soit avec nous, selon le verset 9. Si on se nourrit constamment de choses qui sont fausses, de choses qui sont moralement mauvaises, de choses qui sont légères, de choses qui sont impures, ça ne va pas produire la paix. Ou alors si on se nourrit constamment dans nos pensées de tout ce qui passe à l'écran, de tout ce qui passe sous nos yeux, c'est laisser un sol propice pour que la mauvaise herbe de l'anxiété grandisse, d'être nourri par ces choses-là. C'est pour ça qu'en lien avec la paix, ces versets nous encouragent à porter constamment nos pensées vers ce qui est vertueux, vers ce qui est bon. Et donc, il faut un effort de notre part. Naturellement, si on ne fait rien, nos pensées ne sont pas nourries par ce qui est excellent, par ce qui est vraiment bon, par ce qui est pur, par ce qui est digne de louange. Nos pensées vont plutôt être nourries par Instagram, par les nouvelles les plus croustillantes, par les soucis au travail, par le stress de la journée, par le repos qu'on trouve devant la télé. Et ces choses font partie de la vie, ce n'est pas mauvais en soi. Mais au milieu de tout ça, on a besoin de constamment détourner nos pensées de ces choses-là et les tourner vers ce qui est bon, vers ce qui est parfait, vers ce qui correspond à ce verset 8. Ça implique de faire attention à ce qu'on regarde, de faire passer ce qu'on regarde aux critères du verset 8 qui sont mentionnés ici, mais ça implique aussi de mettre en place des choses pour se nourrir de ce qui est bon. Un moment régulier de méditation autour de quelques versets ou d'un chapitre de la Bible, des temps pour lire un livre chrétien ou des articles en ligne, des discussions avec des amis qui sont orientées autour des vérités de l'Évangile, de comment vivre la vie chrétienne, de comment aimer Dieu. Et c'est aussi un encouragement pour nous alors que les vacances approchent. On veut tous du repos pendant les vacances, n'est-ce pas? Mais ne déconnectons pas notre vie spirituelle. Continuons à nous concentrer vers ce qui est vertueux dans nos pensées, dans nos lectures, dans ce qu'on regarde. C'est ça ultimement qui nous donnera la vraie paix, le vrai repos. De la même manière, naturellement, on n'a pas face à nous des modèles de personnes qui se comportent de manière vertueuse, honnête ou pieuse, comme il est décrit, comme ce que Paul est dans le verset 9. Les héros des films ou des séries télé sont souvent loin du modèle de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Une personne qui vit pour Jésus et qui veut servir les autres. Mais là encore, on a besoin de constamment porter les yeux sur les bons modèles. Vous connaissez peut-être des gens qui passent leur temps à parler du péché des autres, des erreurs des autres, des commérages. Peut-être que nous-mêmes, parfois on est comme ça, et on nourrit de telles conversations. Mais il faut fermer la porte à ces conversations, il faut couper court, il ne faut pas s'en nourrir, parce que c'est fermer la porte à la paix que Dieu donne, et détourner les yeux de ce qui est moralement bon. Soyons toujours en train de poursuivre ce qui est bon, une vie vécue en conséquence de la grâce de Dieu. Un cœur qui veut honorer Dieu, des pensées qui sont pures, et le Dieu de la paix sera avec nous. Alors voilà ce qu'il faut pour vivre l'harmonie dans l'Église, pour avoir la vraie paix. Et c'est seulement si on a connu nous-mêmes la paix qui vient de Dieu qu'on pourra vivre ces choses. Ces clés qui sont décrites ici, ce n'est pas des cases à cocher pour gagner quelque chose dans le distributeur automatique céleste qui vient des cieux. Non, Ces clés sont la conséquence d'un cœur qui a connu la paix qui vient de Dieu, qui a fait la paix avec Dieu. C'est la paix qu'on trouve quand on se confie en Jésus, mort sur la croix pour prendre sur lui le jugement qu'on mérite. La paix de Dieu qui pardonne tous nos péchés, qui nous accueille dans sa famille, qui nous met au bénéfice de sa grâce pour l'éternité. C'est seulement en comprenant ces choses-là, c'est seulement en recevant cette paix-là qu'on pourra vivre nous-mêmes la paix. Comme le dit le chant qu'on va chanter dans un instant, « Ô Jésus, tu nous appelles », la strophe 2, « Ô Jésus, c'est ton sang même qui scella notre unité. Apprends-nous comment on aime, donne-nous ta charité. Que l'on trouve en ton Église le modèle de la paix, pour que rien ne la divise. Rends-nous frères pour jamais. » Je vous invite à prier pour terminer, je laisserai la place à Adrien ensuite. Oui, notre Dieu, nous te remercions pour le sang de Jésus qui a scellé notre unité, qui nous a permis d'être unis les uns avec les autres et en paix avec toi. Merci parce que tu es notre bon Père Céleste qui se soucie de nous, à qui on peut faire connaître tous nos fardeaux. Aide-nous, notre Dieu, à continuer à entretenir cette paix, à vivre cette paix au sein de cette Église. Aide-nous à vivre en harmonie, pour que rien ne nous détourne de notre mission, de l'importance de lutter pour l'Évangile, d'œuvrer pour les progrès de l'Évangile. Préserve cette unité parmi nous. Fais grandir cette paix dans nos cœurs. On te prie pour ta gloire. Amen.